VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerriec en direct de Washington, mardi 28 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, une attaque attribuée à des djihadistes fait au moins 7 morts dans l'est du Burkina Faso.
VOA Afrique.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar refuse finalement de signer l'accord de paix. Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Et puis les États-Unis récusent la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure engagée par l'Iran concernant les sanctions américaines. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Sept soldats burkinabés ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans l'est du pays. Ils se rendaient en renfort dans une localité où des assaillants avaient attaqué une gendarmerie. Le point avec Lamine Traoré.
Au moins 7 militaires et gendarmes ont été tués ce mardi dans l'est du pays, selon un communiqué du gouvernement. Selon le ministère de la Sécurité, la gendarmerie de Pama, chef-lieu de la province de la Kompianga, dans l'est, a été attaquée tôt ce mardi par un groupe d'assaillants armés, non encore identifiés. Des éléments de garde ont pu mettre en déroute les assaillants et de circonscrire les dégâts. Les véhicules des forces de défense et de sécurité de Fadangourma, chef-lieu de la région, appelé en renfort, a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Fadangourma. Pama. Le bilan provisoire élevé en mi-journée, selon le gouvernement, fait état de 7 agents des forces de défense et de sécurité tués et 6 blessés, dont 2 grièvement. Les attaques deviennent récurrentes au Burkina Faso. Rien que ce seul mois d'août, près d'une quinzaine de personnes, la plupart des soldats, ont été tués. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, première preuve de vie de l'une des collégiennes enlevées en février d'un pensionnat de Dapchi. Dans un enregistrement envoyé à des médias locaux hier soir, l'adolescente plaide pour sa libération auprès du gouvernement du président Muhammadu Buhari. Toutes les élèves de Dapchi ont été relâchées à l'exception de cette adolescente de 15 ans qui était la seule chrétienne du groupe. Nigeria toujours, le président Muhammadu Buhari sous le feu des critiques de l'opposition, de la justice et de la société civile. Il lui a reproché d'avoir déclaré que la sécurité du pays passait avant le maintien de l'état de droit. Au Niger, 36 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en juin qui ont frappé particulièrement le nord désertique du pays. C'est selon un bilan de l'ONU qui compte plus de 130 000 sinistrés. En République démocratique du Congo, les 6 candidats recalés à l'élection présidentielle ont tous saisi la Cour constitutionnelle à la date butoir de mardi contre la décision de la commission électorale d'invalider leur dossier. La Cour constitutionnelle doit délibérer et renvoyer ses décisions à la CENI qui annoncera la liste définitive des candidats le 19 septembre à 3 mois des élections prévues le 23 décembre. RDC toujours, une organisation de défense de la presse s'est inquiétée aujourd'hui de l'enlèvement d'un journaliste responsable d'une radio locale de Rutshuru dans l'est du pays par des hommes armés qui réclament une rançon. Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. L'accusation adressait un tableau des exactions présumées commises sous ses ordres en 2002-2003 en Ituri. Celui qui était surnommé Terminator doit répondre de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a plaidé non coupable en 2015. Nathalie Barge.
Les preuves ont montré, au-delà de tout doute raisonnable, que Bosco Ntaganda est vraiment coupable des crimes dont il est accusé, a dit la procureure Fatou Bensouda, estimant qu'il a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des Patriotes Congolais et de son bras armé, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo. Selon les témoignages, l'ex-chef de guerre a utilisé des enfants soldats, fait des filles des esclaves sexuels et lancé des attaques contre des civils sur des bases ethniques. Ntaganda est accusé d'avoir mené en 2002 une attaque au village de Mongwalou, proche d'une mine d'or, qui avait fait au moins 200 morts. Il était recherché et s'est rendu de lui-même en 2013 pour demander son transfèrement à la Cour pénale internationale. Son jugement sera très suivi après l'acquittement par la chambre d'appel de la CPI du Congolais Jean-Pierre Bemba, qui avait été condamné pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique.
Au Congo-Brazzaville, des organisations de la société civile exigent la libération immédiate de trois ex-responsables du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, accusés de détournement de fonds et détenus depuis janvier. Ils sont accusés d'un présumé détournement de plus de 706 millions de francs CFA en 2014, destiné à la réhabilitation du CHU de Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, toujours, 23 anciens réfugiés rwandais ont reçu un passeport et un titre de séjour. Les 23 bénéficiaires font partie d'un groupe de plus de 8000 Rwandais qui ont perdu le statut de réfugié le 31 décembre 2017. Ce passeport va servir à obtenir des documents d'intégration locale, a expliqué l'ambassadeur du Rwanda au Congo. La première ministre britannique s'est engagée aujourd'hui pour un nouveau partenariat du Royaume-Uni avec l'Afrique. Theresa May veut que son pays devienne le premier investisseur occidental pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Les précisions de Jean-Roger Billon.
D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, a déclaré Madame May dans un discours prononcé au Cap, en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. Elle a annoncé dans la foulée une enveloppe de 5 milliards de dollars d'investissement dans les économies africaines. Une réunion pour l'investissement en Afrique est d'ailleurs programmée pour l'année prochaine à Londres. La chef du gouvernement britannique a également souligné l'importance des enjeux sécuritaires. Theresa May s'est entretenue avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel elle a signé un accord commercial. Elle a fait savoir qu'elle soutenait le programme de réforme agraire de l'Afrique du Sud, à condition qu'il soit réalisé dans la légalité. Madame May a profité de son passage au Cap pour présenter aux Sud-Africains la cloche récemment retrouvée du navire britannique SS Mendy, qui a fait naufrage en 1917 dans la Manche avec 600 Noirs qui partaient pour le front en France. Theresa May doit mettre le cap mercredi sur le Nigeria où elle rencontrera le président Muhammadu Buhari. Jeudi au Kenya, elle s'entretiendra avec le président Uhuru Kenyatta.
Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar refuse de signer l'accord de paix final avec le gouvernement, texte destiné à mettre un terme à la guerre civile. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar étaient parvenus à signer début août une série de déclarations prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir au Soudan du Sud. Nous reviendrons sur ce dossier du Soudan du Sud dans la partie magazine de cette édition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran veut obtenir la levée des sanctions économiques réimposées par le président Donald Trump. Les États-Unis ont réfuté aujourd'hui la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure. Claire Morin-Gibourg.
Washington s'oppose vivement à la requête de l'Iran. La délégation américaine dépêchée sur place à La Haye défend que la Cour internationale de justice ne devrait même pas perdre son temps à étudier cette procédure, car pour eux, ce n'est pas du ressort de la Cour onusienne de porter un jugement dans le différend entre les deux pays. L'Iran affirme que les sanctions sont des violations flagrantes du traité américano-iranien de 1955, qui prévoit des relations amicales et encourage les échanges commerciaux, même si l'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les sanctions américaines ciblent les transactions financières, les importations de matières premières et les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'à jeudi.
La Russie a renforcé sa présence militaire au large de la Syrie. Deux frégates armées de missiles de surface ont été envoyées samedi en mer Méditerranée. D'après les médias locaux, Moscou redoute de prochaines frappes des Occidentaux visant les forces de Bachar al-Assad. Au total, la flotte russe dispose désormais de 10 navires et de 2 sous-marins au large de la Syrie, soit le plus important contingent depuis le début de la guerre en 2011. C'est du moins ce que rapporte le journal Izvestia. Concernant la Syrie toujours, l'émissaire de l'ONU a invité des représentants de plusieurs pays occidentaux et du Proche-Orient à une réunion à Genève le 14 septembre consacrée à la future constitution syrienne. Stéphane de Mistura a déjà convoqué une réunion les 11 et 12 septembre avec des représentants de la Russie et de l'Iran qui appuient le régime de Damas et de la Turquie, soutiennent l'opposition syrienne afin de former un comité constitutionnel chargé de rédiger ce document. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Au Rwanda, le tourisme a généré 438 millions de dollars en 2017. Par rapport à l'année précédente, Kigali a enregistré une augmentation de 34 millions de dollars. La hausse devrait atteindre 74 millions de dollars en 2018, selon les prévisions. La compagnie nationale rwandaise dessert actuellement plusieurs destinations et améliore l'accessibilité du pays. L'accord de sponsoring avec l'équipe de football anglaise Arsenal, le FC, permettra de rehausser de manière significative l'image du pays. Jusque-là, l'attraction touristique a atteint plus de 173 millions de personnes. Londres veut devenir le premier investisseur occidental en Afrique d'ici 2022. La première ministre britannique Theresa May a annoncé plus de 4 milliards d'euros d'investissement dans les économies africaines. Elle a débuté sa tournée ce mardi en Afrique du Sud. Elle sera au Nigeria mercredi et à Nairobi jeudi. La chancelière allemande Angela Merkel entame également une tournée de 3 jours en Afrique. Elle arrive mercredi à Dakar et poursuivra sa visite au Ghana et au Nigeria. Berlin s'intéresse actuellement à une poignée de grandes économies africaines. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie bénéficient 89% des 10 milliards que l'Allemagne injecte chaque année en Afrique. La chancelière Merkel vise à élargir cette présence.
L'info sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
De nouveau qualifié pour les quarts de finale en Ligue africaine des champions.
Et oui, la sixième et dernière journée se dispute aujourd'hui. Dans le groupe B, c'est finalement l'Entente Sétif qui accompagnera le TP Mazembe en quart de finale. L'Aigle Noir a validé son billet en s'imposant 2-1 sur le terrain de ses compatriotes du MC Alger. Un résultat qui rend anecdotique le match nul 1-1 entre Mazembe et le Difa El Jadida. Mission accomplie pour Primero de Agosto dans le groupe D. Maître de leur destin et évoluant à domicile, les Angolais ont dominé Mbabane 2-1, suffisant pour rejoindre l'étoile du Sahel déjà qualifiée en quart de finale.
Éliminatoire Cannes 2019, la liste du Bénin est enfin disponible.
Oui, c'est la première sélection de Michel Dussuyé. Depuis son retour au Bénin comme sélectionneur des écureuils, il a convoqué 21 joueurs parmi lesquels le capitaine Cessegnon, les attaquants Steve Mounier et Michael Poté. Le Bénin compte 3 points après son succès 1-0 sur la Gambie lors de la première journée des éliminatoires. Les écureuils voudront enchaîner le 9 septembre face aux éperviers du Togo, dominés par les Fenecs d'Algérie lors de leur première sortie.
Au Maroc, les Lions de l'Atlas feront face au Malawi sans Benatia.
Tout à fait, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a fait appel à 25 joueurs pour la réception du Malawi le 8 septembre. Par rapport aux 23 Lions de l'Atlas du Mondial 2018, on note l'absence du capitaine Mehdi Benarsia. En revanche, plusieurs retours sont à signaler avec le néo-défenseur de Dijon, Naïef Aguerk, le milieu de terrain Nousser Mezaroui, pré-convoqué pour le Mondial, et des attaquants Achraf Benchartri et Yacine Bamou.
Et puis transfert, Seydou Doumbia a rejoint Gérone.
L'attaquant international ivoirien arrivé libre a signé à Gérone pour 3 saisons, d'après le club catalan qui évolue en première division du championnat d'Espagne. Il avait été prêté par l'AS Rome au Sporting Portugal l'an dernier. Arrivé à Rome en janvier 2015, Doumbia ne s'y est jamais imposé et n'a disputé que 14 matchs sous le maillot giallorosso, inscrivant 2 buts. L'international aux 37 sélections avec la Côte d'Ivoire a ensuite été prêté au CSKA Moscou, à Newcastle, à Bale, puis au Sporting Portugal.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 7 militaires burkinabés ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par l'explosion d'un engin artisanal en allant renforcer un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays. Et ces dernières semaines, ces attaques ne se produisent plus seulement au nord, mais aussi dans le centre, le sud et l'est. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le chercheur Jacob Yarabatiola, spécialiste des questions de terrorisme.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. C'est des attaques donc des postes des postes donc des forêts, l'attaque des postes de gendarmerie, de police et la pose des mines, voilà, sur lesquelles justement les engins donc des forces de défense et de sécurité sautent régulièrement.
Est-ce que l'autorité arrive à suivre?
Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de court. Parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque. Mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Par exemple, les terroristes, avant d'attaquer un poste, posent donc des engins de ce type sur le parcours éventuel, le parcours possible donc des forces de défense, et sachant qu'ils vont sauter dessus. Donc, alors que quand ils veulent riposter, ils ne prennent aucune précaution, à mon avis, sur ces types donc de situations. Il me semble que ils n'y pensent même pas régulièrement que leur chemin pourrait être miné.
Alors, ceux qui mènent ces attaques dans l'est du pays, d'où viennent-ils?
On sait que régulièrement le nord, le Sahel, était justement attaqué. Et il y avait aussi donc des attaques sporadiques dans l'Est. Maintenant, on a constaté que les attaques au niveau donc du Sahel ont baissé d'intensité. Et à l'inverse, justement, dans l'Est du pays, on reprit le plus belle. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas et ont en même temps animé leur initiative par rapport à d'autres donc localités. Donc peut-être voir donc les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. De toute façon, il y a une grosse synergie qui est là et qui a un projet commun, et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
Jacob Yarabatiola, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le chef rebelle Riek Machar a refusé de signer l'accord définitif de paix pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud. Pourtant, le président Salva Kiir et son rival ont signé le 5 août à Khartoum une déclaration prévoyant le retour de M. Machar dans son pays pour occuper un des 5 postes de vice-président. Ahmed Al-Dirdiri, ministre soudanais des Affaires étrangères, a annoncé aujourd'hui que les rebelles refusent de signer. Sur les causes de ces derniers blocages, Idriss Fall a joint Mohamed Nadji, directeur du Sudan Tribute à Paris.
Les dernières discussions étaient sur des sujets sur lesquels les partis étaient déjà en différence. Ils gardaient 4 ou 5 thématiques pour être étudiées à la fin des négociations, ce qui était le cas pendant ces 3 derniers jours. Parmi les choses qui sont les plus importantes, c'était la question de l'élaboration de la constitution de ce Soudan, la médiation. Il a modifié aussi, pour faire plaisir à Juba, il a modifié le mécanisme. Normalement, il y a une conférence constitutionnelle qui devait avoir lieu, c'est elle qui doit être chargée de l'élaboration de la constitution. Mais à la place, on a fait juste une commission de révision constitutionnelle. Et donc, ça a beaucoup déçu les Riek Machar. Il y a aussi une question qui était déterminante aussi, qui a poussé l'opposition à refuser l'accord. C'est
la division administrative du territoire.
Oui, de l'administration territoriale. L'opposition, elle rejette, elle refuse les 32 régions qui ont été établies par le président Salva Kiir. Et à la place, ils veulent réinstituer les zones anciennes grandes régions qui étaient avant. Ces journaux de l'opposition représentent aussi des tribus, si j'ose dire. Leurs tribus sont lésées par la nouvelle répartition, la nouvelle division administrative territoriale, parce qu'ils donnaient beaucoup de territoires au Dinka du président Salva Kiir. Et ça, pour eux aussi, ça leur faisait mal et ils ne veulent pas accepter ça.
Mais quand même, ils acceptaient les 5 postes de vice-président.
Voilà, ça aussi, il y a un petit couac là-dedans. Et ça, ils l'ont invoqué dans une déclaration qu'il venait de publier à Khartoum, où il disait que Salva Kiir, il refuse de tenir compte du fait que la présidence maintenant est devenue une présidence collégiale. Et donc, il ne veut pas changer le mécanisme de la prise de décision, c'est-à-dire le processus décisionnel. Il rejette ça. Il veut toujours avoir tout, avoir à lui qui décide tout, etc., sans tenir compte. C'est-à-dire, il veut se donner l'avantage toujours et il ne veut pas concéder à ce qu'il y a en consultation.
L'unique chose positive, c'est qu'on peut dire pour le moment, au moins, la trêve est respectée, il n'y a pas de combat.
Mais tout à fait. Moi, je reste malgré tout optimiste parce que dans le Sud-Soudan, il y a un ras-le-bol général, si j'ose dire. Les gens, vraiment, ils ont assez de cette guerre, mais ils ne comprennent pas. Les gens se trouvent complètement, ils ont juste envie de respirer et d'avoir la paix.
Mohamed Nagy, directeur de Sudan Tribune à Paris.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires? Et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens? C'est un Washington Forum spécial ce jeudi à 19h30 en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
En République démocratique du Congo, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola fait état de 75 morts dans l'est du pays. Comment Ebola affecte-t-elle la vie et les relations des habitants de Beni, zone congolaise frontalière à la fois avec la province de l'Ituri, l'Ouganda et le Rwanda? Eddy Sango a joint sur place l'éditeur du journal Les Coulisses, Nikes Kibel-Beloka.
Les pratiques d'hygiène observées notamment dans le lavage des mains, pratiquement à l'entrée de chaque magasin, boutique, chaque bureau, il y a un seau d'eau avec du savon désinfectant pour se laver les mains. Cette attitude est observée et commence même à prendre corps dans les esprits de la population ici. Il y a ceux d'ailleurs qui se promènent avec des flacons de désinfectants pour se laver les mains chaque fois qu'ils tiennent le poignet. Les gens ne se saluent plus. Même au niveau de l'église, il est interdit de se saluer par le signe de la paix qui est l'échange de mains.
Quel impact cette méfiance que les gens ont les uns les autres dans les relations, par exemple en famille, à l'école, au travail?
Il se pose aussi un problème au niveau de la rentrée scolaire, parce que En réalité, la rentrée scolaire, c'est pour lundi 3 septembre. Et cette rentrée scolaire devra se passer normalement comme à travers toute l'étendue du pays. Bon, là, effectivement, il y a des grincements des dents parce qu'il est difficile pour les élèves de ne pas se côtoyer, de ne pas se toucher. Vous savez, ici, il y a des classes où on s'assoit 3-4 par banc. Alors, ça pose un sérieux problème.
Les parents ont-ils de la réticence à envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est lundi, comme tu l'as dit, la rentrée scolaire?
On ne peut pas reculer la rentrée parce qu'on ne sait pas à quel moment, pendant combien de temps vont durer va durer le traitement pour cette maladie. Donc, si on décrète 1 mois, 6 mois, cela signifie qu'on décrétait l'année blanche. Donc, il faut prendre d'autres dispositions pour que les élèves étudient. Mais ce n'est pas facile, il y a assez de réticences du côté des parents. Les habitudes ont la tête dure, on continue à vendre. Ce qui est plus observé, c'est la non-salutation. Les gens ne se saluent plus par la main. Ça, c'est ce qui est plus observé. Mais pour les autres habitudes, ça continue un peu. Vous savez, ce n'est pas facile.
Que se passe-t-il au niveau de la frontière? Parce que Béni, comme tu l'as dit, est frontalière à 3 pays.
Oui, au niveau de la frontière, notamment la frontière avec l'Ouganda du côté Kassindi, l'OMS a installé un centre de contrôle pour les populations qui traversent.
Voilà, c'était Nikes Kibel-Biloka, l'éditeur du journal Les Coulisses.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Tchad, poursuite du débat à N'Djamena sur la nouvelle constitution consacrant la 4e République. Le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, Max Kemkoye, lance une pétition politique et citoyenne pour exiger le retrait de cette constitution et les ordonnances subséquentes. Une initiative soutenue par plusieurs acteurs politiques. De N'Djamena, la correspondance d'André Konmajingar.
Entrée en vigueur le 4 mai 2018, cette nouvelle constitution, selon le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, menace la vie juridique et le fonctionnement des associations, des organisations syndicales, de presse et des partis politiques. Pour Max Kemkoye, signer cette pétition, c'est rejeter cette loi fondamentale qui oppose les Tchadiens dans leur diversité culturelle.
Cette constitution et les ordonnances subséquentes constituent une atteinte au multipartisme, au système compétitif, au libre exercice des droits et libertés, base de la démocratie. C'est pourquoi cette pétition est une fois signée, sera accompagnée d'une requête conforme au protocole et déposée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que devant la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, en plus d'une mise en garde spéciale qui sera adressée à la France et à l'Union européenne, qui continue à fermer les yeux sur les violations massives des droits humains au Tchad pendant que tout est mis en œuvre ailleurs, dans d'autres pays africains, pour défendre et préserver la démocratie, les droits et les libertés.
Pour le promoteur du mouvement, les transformateurs, Dr. Succès Masra, cette initiative citoyenne rejoint sa mise en garde contre les hautes autorités du pays, car, dit-il, on ne peut écrire une constitution pour un mandat électif.
Peut-on sérieusement défendre une constitution dans un pays qui a une espérance de vie de 45 ans, qui a 70% de sa population et a moins de 40 ans, empêcher à cette partie de la population de participer aux instances stratégiques et entériner cela dans la constitution? Peut-on sérieusement entériner dans une constitution que finalement on concentre les pouvoirs entre les mains de cet individu?
François Ndikombe, un jeune Tchadien qui vient de lancer son parti politique dénommée Union Sacrée pour la République, a déclaré qu'il sera le premier à signer cette pétition, quand bien même que son parti est le premier à être légalisé sous la 4e République.
Il faut donc non seulement annuler la constitution, mais remettre en cause complètement le Forum National Inclusif. Ça n'a pas de sens.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, soutient également cette initiative, car pour lui, cette constitution est une somme de contradictions totales.
Au préambule de la constitution, on se proclame être irrévocablement laïque et à l'intérieur de la même constitution, on consacre le serment confessionnel. C'est une monarchie élective qui est érigée et de ce fait-là, je pense que c'est une constitution que nous devrions combattre.
André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Tiro, à la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.